du coq à l'âne.
On est sûr ? Bah oui. On est sûr que c'est le numéro 627 du coq à l'âne. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro, donc en ce dimanche ensoleillé, où nous sommes autour de la table avec... Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, c'est vrai, il fait beau.
Ben oui, évidemment qu'il fait beau. Jean-Claude Hérault.
Oui,
salut Jean-Claude.
Bonjour.
Nous avons Michel Roussel.
Oh, ouais.
Nous avons Patrick Faure.
Oh, ouais.
Patounet.
Et nous avons Christophe Pirel.
Ah, bonjour.
Oh. Oh.
Encore.
Jean-Claude, je t'ai entendu.
C'est pas vrai, ça. C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte?
Oh, bah, écoute.
C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, je voulais faire un petit truc sur... qu'est-ce que j'ai fait? On s'arrête sur le PS qui est donc sous assistance respiratoire.
Ça recommence.
D'accord. Non, mais...
Oui, mais attends, c'est stable.
Et maintenant, dans la série des éléphants à l'hôpital... Voici l'histoire d'un chirurgien orthopédiste à qui la médecine cassait les pieds. Docteur, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, hein, ça fait plus d'un an d'acharnement thérapeutique, faut abandonner toute idée de retour à la vie. Hein. Mais non, moi je peux le réanimer. Ah non François, hein, tu vas pas recommencer.
Ah, c'était François Hollande.
Bah, sinon docteur, il y a Joli Costard qui se propose pour un massage cardiaque. Qui ça? Cazeneuve? Avec un programme mitterrandiste. Oh ben on n'est pas rendu. Hein. Quand je pense qu'il nous avait vendu le renouveau du parti avec Raphaël Carglass. Non, Glassman, docteur. Ouais, c'est ça, Raphaël Glassman. Le pauvre.
Oh, Glassman.
Le renouveau du parti. Obligé de sortir les éléphants de la réserve. Jospin, Hollande, Aubry. Aujourd'hui, c'est Papy Cazeneuve qui veut ramasser les cendres des joueurs au Phoenix. Non, mais je pense qu'il serait vraiment raisonnable de débrancher le parti une bonne fois pour toutes. Et les républicains? Ils sont où les républicains? Les républicains, ils sont à l'église, avec Wauquiez qui est à confesse. Oh mon père, j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission, oui j'ai vraiment péché. J'ai imaginé déjà en pensée, cette nuit, la mort de Gérard Larcher. Et c'était vachement bon. En parole aussi, ah oui, ça j'ai péché aussi en parole, puisque j'ai rien trouvé mieux à dire après la branlée. Pardon mon père, je sais, vous, c'est pas autorisé. Enfin, pas pour tous. Donc je vous disais, n'avoir rien trouvé de mieux à déclarer après notre débâcle. Pardon mon père. Ma débâcle, après ma débâcle, que je partais en vacances et qu'on se retrouvera en septembre pour les états généraux du parti que je vais organiser donc en septembre. J'ai aussi péché par action, oui, en déclarant que des conneries depuis un an, qu'est-ce que j'ai pu dire comme conneries, hein. Et donc par omission aussi, oui, j'ai oublié que Nico, lorsqu'il s'était pris une raclée aux européennes, bah lui, il avait démissionné dans la foulée. Mais moi, vraiment, j'ai pas envie de partir, et puis... Et puis pour mettre qui à la place?
On en a déjà parlé. Ce qui arrive à votre famille n'est pas bien grave. Faut vous adapter.
Gardez la foi.
Merci mon père.
À la sortie de la messe, c'est pas mal cette petite prière.
Donc voilà, ça va être les deux sujets de la journée.
Mais
le PS et les Républicains.
Tu sais que Bernard Cazeneuve, il t'a quel âge, toi?
Moi, 56.
Ouais, il a un an de moins que toi, c'est juste parce que tu l'as
appelé papy quand même. Mais il est fait beaucoup plus. Il est fait beaucoup plus.
Non, mais c'est juste pour te rappeler, il est plus jeune que toi.
C'est vrai qu'il n'est pas dans la tête, alors. Hein.
C'est vrai.
Pas dans la... pas au niveau vestimentaire, peut-être.
Non,
c'est
mais il revient à Cazeneuve avec un programme à la Mitterrand, hein. De toute façon, faut pas se leurrer, hein.
Non mais j'aime bien ton côté maintenant, c'est plus des chansons, c'est des sketchs.
Oui, oh, mais non, mais c'est parce que voilà, sinon...
Ah non, c'est chouette, parce que du coup, comme t'as bouclé l'album, tu te mets maintenant à faire
ton
one-man show.
Attends.
Non mais c'est bien.
Sinon il y avait... Oh, Colora, avec David tu ramasseras tout le pactole que j'avais mis de côté pour Laetitia.
Mais, ah ouais, c'est bien aussi.
Ouais, c'est pas mal. Donc,
tu la gardes pour la semaine prochaine.
Je vais la réécrire. Et voilà, donc je voulais qu'on parle évidemment autour de cette table des européennes. Alors, on va parler des deux premiers, on va parler du troisième surprenant, et puis on va surtout parler de la débâcle des deux autres, hein, ou des trois autres. Hein. D'ailleurs, on peut rajouter...
ou des 30 autres, en fait.
Non.
Bah oui.
Non, mais il y en avait 34. Hein.
Disons, quand tu as fait 15, tu as fait 18,
Michel,
tu t'en trouves à 5, à 6.
Pareil, il ne faut pas se plaindre. Alors, du fait qu'on est dans une démocratie, tout le monde peut proposer son produit.
Et là, ouais, ça a peut-être été une stimulation justement de,
Pour les voter.
Bien sûr, c'est vrai, autres, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on regarde une chose qui est intéressante. Les Verts, il y a une trentaine d'années, ils faisaient très peu de mais on disait c'était un peu des extraterrestres. Aujourd'hui, il y a le parti animalier a défrayé un petit peu la chronique. Alors je ne sais pas ce que ça fera dans le temps. En attendant, il y a une sensibilité qui est en train de naître.
Non mais attends, quand tu prends toutes les voix, la bonne nouvelle de ces européennes, c'est quand même quand tu prends toutes les voix écologistes. C'est parce que et quand tu prends les débats qui ont eu lieu avant, on a parlé enfin d'écologie dans ces débats. Alors après, il y a eu des réponses plus ou moins honnêtes. Il y a des choses qui sont, il y a certains qui n'ont rien fait depuis des années, mais qui quand même en parlent. Mais il y a une conscience et ça c'est super. Ça veut dire que et les citoyens sont venus voter pour expliquer que maintenant ça devait être au cœur des débats. Ouais. Donc c'est intéressant parce que après le débat sur la taxe carbone, le gilet jaune, etc. Et ben il y a eu ce moment où les gens redisent la conscience écologique. En fait on l'a, on est en plein dedans. Et donc il faut maintenant que dans les débats et notamment européens, là où se prennent les décisions, eh bien vous soyez à l'écoute de ces sujets-là qui sont fondamentaux pour l'avenir. Donc ça, moi je trouve, enfin si tu veux, on peut faire de la politique politicienne. Moi ça me dérange pas. On sait faire. On est tous des professionnels de la politique pour certains. Enfin, il faut regarder quand même les bonnes nouvelles dans l'affaire. Si c'est pour juste pour parler de savoir si le PS ou les Républicains, les machins, enfin, je vais dire un truc, les gens s'en foutent. Pour une simple et bonne raison, c'est que ces partis-là, ils sont dans...
Ils sont morts.
Je sais pas s'ils sont morts. C'est-à-dire, idéologiquement, ils sont plus, aujourd'hui, en adéquation avec ce que les gens attendent. Donc, il y a une expression qui s'est faite dans ces européennes, qui est vachement intéressante. Et il faut entendre ce qui s'est passé. Il y a, un, des gens qui viennent exprimer une grosse colère en s'exprimant pour Marine Le Pen, et c'est un fléau, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même maintenant s'y pencher sérieusement. Puis il y a une bonne nouvelle qui est le vote écologiste, qui fait que il y a cette conscience-là, et ça c'est génial, il faut pas l'oublier. Donc voilà, il faut prendre les bonnes conclusions, pas mon avis, regardez, mais je comprends ton acharnement, mais non, thérapeutique, mais c'est intéressant.
Ceci voilà, y a des choses intéressantes. Faudra dire la vérité aussi. Parce que non, il faut aller au-delà de ce que tu dis. Il faut pas faire croire aux gens qu'on rentre dans une transition écologique.
T'as raison.
Si on modifie pas le système économique, moi je dis depuis toujours, il faut une transition écologique et une transition économique. Je veux dire des penseurs qui sont pas forcément des marxistes. Reconnaissent aujourd'hui que la dérive du système capitaliste de financiarisation de notre société au plan mondial, européen et français nous conduit droit dans le mur. Donc c'est très bien de vouloir verdir, passer une couche de peinture verte, mais il faut aller bien au-delà. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens.
Patounet.
Ah ouais, les élections européennes, faut quand même s'en souvenir, c'est à chaque fois l'échéance référence pour les Verts. C'est pas la première fois qu'ils font un bon score.
C'est que la deuxième, hein.
C'est que la deuxième. Mais il y a eu la première, et la première derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont écroulés. C'est des gens qui sont effectivement, qui ont permis l'expression, la prise de conscience, comme quoi l'environnement, effectivement, comme le dit Jean-Claude, avec l'économie et tout, ben ça devait être pris en compte. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec Jean-Claude quand il dit qu'il faut une évolution dans la manière de procéder au niveau de l'économie. Mais le souci pour moi, c'est que ces verts-là, derrière, ça change à vitesse grand V. Dès qu'ils ils commencent à avoir quelqu'un qui s'installe en place, ils le sabrent. Et il n'y a pas de structure qui permette de pérenniser cet élan.
Ouais, mais
donc le souci, donc effectivement, il y a ça. Il y a aussi, pour en revenir sur le Front National ou le Rassemblement National, effectivement, tu parles de cristallisation de la colère, je suis d'accord. Parce qu'on a un PS, une droite et une gauche et Macron qui, aujourd'hui, ne propose plus de solutions
viables et intéressantes.
Il cristallise ça. Mais derrière, malheureusement, au Front National, oui, il y a quoi derrière ?
Il n'y a rien.
Effectivement, le problème, c'est de dire, putain, réveillez-vous, arrêtez de dire que par rapport à une élection, il faut faire barrage au Front National, travaillez sur les solutions financières. Alors, les solutions économiques, prenez compte, effectivement, que l'écologie, c'est une demande qui est de plus en plus à prendre en compte, qu'il va falloir s'adapter à cette évolution. C'est aussi l'offre et la demande, ce qui s'est passé là en politique. Hein. On, On a des électeurs consommateurs qui se sont qui sont partis de chez eux. Ils ont dit, oh là, il faut que je me fasse un peu entendre, et qui sont là pour dire, voilà, moi ce que je veux, c'est ça. Alors je suis pas content, je mets un peu du Front National. Voilà ce que je veux, c'est, je veux de l'écologie, mais et je vous dis à droite et à gauche, putain, vos programmes, c'est mais de la merde.
Justement, tu as tout à fait raison. Moi qui suis,
il faut être dans la proposition.
Qui suis de gauche et tout le monde le sait.
Non, pense, moi, c'est pas vrai.
Je pense que Christophe aussi est de gauche.
C'est pas possible.
Moi j'ai envie de poser une question à Christophe. Comment il voit l'avenir de la gauche? Moi, je pense que ça peut plus continuer comme ça.
D'accord.
Ce qu'on a vu aux européennes, c'est n'importe quoi. Moi, je connais des gens de gauche qui ont voté blanc ou qui sont pas allés voter. On écœure tout le monde. C'est quand que la gauche va travailler sur un nouveau projet. C'est pas un rassemblement de partis qu'il faut. C'est travailler à un nouveau projet, une alternative économique, une alternative politique où tout le monde se retrouve dedans. C'est ça la solution.
Non, mais la question, là, tu posais la question des Verts. Et moi, ce que je retiens quand même, c'est que le débat écologique, il s'est mis dans le débat général, c'est-à-dire que tu peux pas attendre.
Oui, on est d'accord.
Ça doit pas être un parti uniquement, c'est-à-dire que tu peux pas avoir de l'écologie qui est tenue par un parti. Moi, ce que je retiens, c'est que cette année là, dans les européennes, le débat sur la transition écologique, il a été mis dans les premières parties des débats télévisés, par exemple. Alors qu'avant, c'était à la fin, voire on l'oubliait et ça sautait.
Non, mais tu as entendu Jadot la déclaration qu'il a faite.
Non, mais c'est important.
On va tout changer, donc, quoi.
Oui,
mais il n'a pas les moyens.
Donc, si tu veux, moi, je crois
qu'il fait une erreur.
Il a fait une erreur de.
Il fait une erreur de. Non, mais
après, parce qu'il fait une erreur de discours.
Et pour répondre à la question de Jean-Claude, la question notamment environnementale, moi, j'ai toujours pensé qu'elle était de gauche. Il y a des gens qui me disent non, c'est ni de gauche ni de droite. En fait.
Pourquoi
si,
de gauche?
Parce qu'à un moment, c'est un changement de société. Si tu ne changes pas, effectivement, la vision de la société dans laquelle on est, tu ne pourras pas aller vers la transition. Et le vrai problème de la gauche aujourd'hui, dans son ensemble, et c'est pour un parti ou l'autre, en fait, c'est tous les partis, c'est de penser que tu changes une tête de liste, par exemple, tu mets un plus jeune, tu mets un philosophe, tu mets même les communistes, par exemple, qui ont mis Yann Brossat, si tu veux, qui a une bonne gueule en plus, il est sympa, il est agréable, enfin, il fait 2%. Parce que, en fait, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de lisibilité. Au moins, les écologistes, quand tu as voté pour eux, tu sais pourquoi tu as voté. Ils ont voté. Tu votes pour un programme écologiste. Pour la gauche, dans son ensemble, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que la gauche. C'est quoi le projet de société de la gauche du 21e siècle? À quoi ça sert de voter à gauche? Pourquoi moi, parce que je suis dans la merde, par exemple, si je suis gilet jaune ou si je n'ai pas d'emploi, si je suis agriculteur et que le système est vraiment fait contre moi, eh ben, qu'est-ce que je retrouve dans la gauche, dans l'idéologie de la gauche? Et ça ne peut pas être juste des références à Jaurès, à Marx, etc. Il faut qu'on construise une nouvelle vision de ce que c'est que la société quand on est de gauche de demain. Mais d'ailleurs, la droite.
Il faut virer toutes les têtes de gondole.
Je vais te dire, la droite a le même problème. En fait.
C'est le même problème à droite.
Il
faut qu'ils construisent un nouveau projet.
Non, je te dis toutes les têtes de gondole.
Non, mais ils ont plus d'idéologie. Non, mais c'est même
aujourd'hui, la France insoumise, elle se casse la gueule. Pourquoi?
Non, mais c'est des questions d'idées, en fait. Le problème, c'est virer les têtes de gondole. Ça ne sert à rien.
C'est le personnage Mélenchon qui est odieux devant les.
Je pense qu'effectivement.
Comment s'appelle les médias qui s'insurgent de langue et tout. C'est le père Collard et il nous a rendu service. Qui à TF1 a fait son esclandre.
Là. Ouais. Mais quand les tu vois arriver, de la politique, mais... ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con.
S'il vous plaît, Monsieur Collard, Monsieur Collard, coupez-leur le micro. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à
insulter.
Monsieur Collard,
c'est beau.
Non, mais je veux dire, ça pour moi,
c'est beau le spectacle politique.
C'est rêvé. Non, mais un collard comme ça, il rend service à la démocratie. Il montre ce qu'il y a derrière. Il montre ce qu'il y a derrière un rassemblement national.
Non, mais
je suis désolé.
Moi,
je
dis merci. C'est beaucoup mieux dans cette affaire-là.
Ils sont mis d'accord pour les deux.
Les deux ont été pitoyables.
Non, mais ça va, il faut qu'ils restent chez eux. Il faut qu'ils prennent leur retraite. Ça va.
Exactement. Qu'ils rentrent à la maison.
Qu'ils rentrent chez eux et qu'on les voit plus.
Parce que c'est toujours les mêmes. Moi, quand je revois sur le plateau de TF1, si tu veux, Jean-Christophe Cambadélis, je me dis, mais c'est pas possible.
C'est pareil.
Mais c'est pas possible. On n'en a pas fini avec tout ça. C'est-à-dire que tant que t'auras pas. Mais c'est pas qu'une question de personne. C'est que tant que, en fait, on n'est pas solide sur nos appuis idéologiques, on va continuer à sortir des vieilles têtes parce qu'on saura pas faire autrement. Et donc, La question de la fondamentale, c'est quoi nos bases idéologiques chez voilà. les uns et les autres d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on reconstruit?
Voilà, qu'est-ce qu'on reconstruit? Sinon, tu peux laisser les gens faire n'importe quoi. Moi, il y a plein d'électeurs de gauche qui m'ont dit « Attends, de toute façon, vous avez rien à proposer. Moi, sur ces européennes, la seule chose qui compte, c'est que le FN ne soit pas en tête, parce que c'est devenu une espèce de leitmotiv. Et donc, je me bouche le nez, mais je veux voter Macron. » Mais pourquoi tu votes Macron? Bah, juste pour faire barrage au Front National. C'est quand même pas aujourd'hui un programme politique. C'est quoi le projet de société de voter contre le Front National? Enfin, je veux dire, ça veut dire que maintenant, le seul vote qu'on peut faire, et c'est depuis les présidentielles là, je veux dire, le seul vote qui compte maintenant, c'est de voter contre le Front National aussi. Et au régional.
Je m'en souviens bien.
Enfin, c'est pas un projet de société, ça.
Mais donc ça veut dire qu'on répond quoi aux gens? Il vient des têtes de gondole politiques.
Non, mais il faut les virer, les têtes de gondole.
Je peux en placer une?
Tu fais très bien un homme politique que je connais.
On ne savait pas ce qui était encore.
Ah non, mais moi je vous écoutais, c'était très intéressant. Moi j'ai une solution pour la suite.
Est-ce que vous avez regretté de ne pas vous être représenté? Franchement.
Franchement? Oui.
Oui. Oui.
Je vous réponds, oui.
Oui. Vous avez regretté.
Parce que je pense que ma responsabilité est
ça
engagée.
Ça veut dire quoi? Que vous avez pris votre décision un peu vite?
Sans doute. Oh, parce que j'avais promis de la donner au mois de décembre.
Je me souviens, oui.
2016. J'aurais pu attendre quelques semaines. La situation politique était changée. Mais je voulais surtout conjurer la menace d'un débat, d'un duel entre la droite et l'extrême droite. C'est ça qui m'a déterminé. Mais je n'ai pas suffisamment mesuré les conséquences que ça pouvait avoir sur la gauche. Je n'aurais peut-être pas été élu, mais j'aurais défendu mon bilan.
Ah, ben ouais. Il n'aurait peut-être pas été élu. C'est bon,
ça. Non, mais par contre, ce qu'il dit...
Je sais pas, il y a une question.
Non, mais ce qu'il dit qui est intéressant, ce qui risque de se reproduire aux prochaines présidentielles, c'est d'avoir de nouveau, au deuxième tour, un candidat extrême droite avec un candidat de droite. Nous qui sommes de gauche, c'est quand même catastrophique.
Ben oui, catastrophique. Et à chaque fois, on y retourne.
Et la liste unique, non? Vous y pensez?
C'est ce qu'il faut. Il faut une
liste. Mais tu peux te retrouver sur une liste commune à partir du moment où on sait de quoi on parle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi l'alliance?
Ils reprennent le programme de Mitterrand, mais il y a eu tout un moment
de la campagne où, que ça soit Raphaël Glucksmann, après Benoît Hamon, machin, les uns les autres disaient faut se rassembler. Mais faut se rassembler pour quoi? Non, mais surtout, ça veut dire quoi? On se retrouve dans un dîner, on signe un papier, puis on est content?
Voilà.
Non, ça sert à rien, il faut arrêter.
Faut reconstruire.
Est-ce qu'on peut arrêter?
Je sais pas.
Alors, on se retrouve dans quelques instants. On revient ici dans 2 minutes, le temps d'une toute petite pause. À tout de suite.
Du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rebonjour et re-bienvenue à cette re-émission du Coq à l'âne 627. Autour de la table, Jean-Claude Hérault, Michel Roussel, Patrick Faure et Christophe Pirel.
Vous pourrez citer ceux qui ne sont pas là.
Rebonjour. Jean Cointe
n'est pas là.
C'est... Bruno Didier
n'est pas là.
Absent. Ils n'ont pas pointé.
Absent.
Christian Bouteillon.
Absent. Ils ont pris leur week-end prolongé.
Exactement. Ils ont profité de ça pour faire un grand week-end. Sur ce, on est dimanche. Bon, vous savez enregistre toujours la veille ou l'avant-veille ou l'avant-avant-veille. Enfin bref, on n'enregistre pas le jour même. Voilà.
Et tu sais quoi en plus? Aujourd'hui là.
Oui.
Enfin, pas aujourd'hui, mais là quand on parle que c'est aujourd'hui.
Que dimanche.
Ouais, c'est le 2. C'est l'anniversaire de Christophe Pirel.
Oh, voilà.
C'est vrai.
Joyeux anniversaire, Christophe. Joyeux anniversaire, Christophe. Joyeux anniversaire, Christophe. Joyeux anniversaire, Christophe. Voilà, il a soufflé les bougies.
Mais merci. Si j'avais cru un jour. Possible ce moment.
Hein, voilà. Ouais. Non. Alors bon anniversaire.
Ça fait combien si c'est pas indiscret?
Alors normalement, franchement, c'est exceptionnel. D'habitude, personne ne sait ni le jour où je suis né.
Ouais.
Merde. Je sais pas pourquoi je vous l'ai dit d'ailleurs.
Bah c'est sympa. Mais c'est mon anniversaire.
Ni l'année.
Non, parce qu'il a un peu plus.
Alors, j'ai 35 ans.
T'as 35? Ah, mais t'es jeune.
Je le cache pas non plus.
Bah ça se voit pas.
J'en suis assez fier.
C'est votre anniversaire.
Non mais ça me fait plaisir, merci.
C'est votre anniversaire, chaque joueur doit vous donner 1000
francs. Ah,
ah ben voilà, j'ai bien fait de venir. C'est intéressant.
C'est chiant ce radio.
Alors...
C'est ce qu'on appelle une subvention déguisée.
Ah voilà, non. On en était aux européennes.
De fiscalisation.
Ouais. On a passé un dernier mot quand même pour savoir la défaite de Macron, toi, en tant qu'observateur politique. C'est une grosse défaite, c'est une lourde défaite, c'est pas une trop grave défaite. Comment tu vois ça par rapport, on va dire, à ce qu'on a vécu depuis, on va dire depuis 6-7 mois, depuis le mouvement de ras-le-bol de tous les Français, enfin...
Essaye d'être objectif.
Voilà, non, moi je suis totalement objectif. Quand tu finis deuxième d'une élection, t'as pas perdu non plus. Enfin,
l'élection européenne,
peux pas dire non plus qu'il s'est ramassé.
Mais t'as pas gagné.
T'as pas gagné non plus. En revanche, si tu prends les résultats des élections européennes, des partis de gouvernement, c'est-à-dire...
Ils ont tous gagné.
Ils ont tous gagné.
Ouais.
Sauf le PS.
Sauf le PS en 2014.
Ouais.
Mais globalement, dans l'histoire de la 5e, les présidents élus, souvent les européennes sont pas très loin derrière. Ouais. Ils réussissent très très bien. Sarkozy, il avait fait un très
beau score. C'était
des élections par grande région, tu sais.
Oui, mais 13%. Devant, il y avait l'UMP, je crois, 18, et puis il y avait 24, le FN. C'était qui le président?
Mais je l'ai dit tout à l'heure.
C'est François.
C'était l'année. C'est François Hollande. Ah, d'accord. Oui.
Mais c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'était en 2014, le PS. C'est le seul qui a fait une exception à la règle.
Bravo, t'as
histoire 2, tu vois. Histoire
2.
Donc, non, écoute, c'est pas une lourde défaite.
Je te dis seulement à rappeler que pour ton anniversaire, je suis gentil et je te rappelle que tu as été donc chef de cabinet.
Ah, ça y est, allez, ça recommence. Voilà, ça y est.
C'est marrant, il veut plus qu'on le dise, ça.
Tu es des messieurs en association avec France Alzheimer, je voulais vous dire quand même.
Donc pour revenir à ta question, c'est pas une lourde défaite, c'est pas non plus un score phénoménal.
Non,
et ce qui est vrai, c'est que ça rassemble encore La République En Marche, beaucoup de gens qui, comme je le disais tout à l'heure, sont dans une élection permanente contre le Front National. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui l'alternative qui leur permet de trouver quelqu'un pour lutter contre le Front National. Donc, tu as des gens de droite.
C'est un premier tour, hein. Attention.
Bien sûr, mais tu as
des... Il n'y avait pas un deuxième tour.
Tu as des gens de droite.
Pas pareil.
Oui, mais tu as des gens de chez les Républicains.
Et Michel qui veut dire un truc.
Non, mais tu as des gens de chez les Républicains qui directement ont voté pour La République En Marche, des gens de gauche qui ont directement voté pour La République En Marche pour barrer la route au Front National. Et donc, tant qu'on n'en a pas fini avec ça, parce que je pense que les gens se leurrent aussi. À un moment, il faut laisser faire la démocratie, il faut que les gens aillent là où leurs idées les portent, pas uniquement contre un projet ou un non-projet d'ailleurs de la République nationale, du Rassemblement National. Là,
le Front National.
Le machin. Je vais l'appeler Front National, ce sera
Michel. Michel.
Oui, d'habitude, on est habitué en France, voilà, pour le coup, c'est l'habitude, effectivement, d'avoir des élections à deux tours. Et là, il n'y a qu'un seul tour et à la proportionnelle. Donc c'est vrai que celui qui n'a pas été attentif, en disant bah, je me rachèterai le coup d'après.
Ouais, quand même.
Mais tu l'as vu ça d'ailleurs ? La recherche sur Google, la première recherche le lendemain de l'élection européenne, c'était quand a lieu le second tour.
C'est-à-dire
qu'il y a plein de gens qui sont allés sur Google pour chercher le deuxième tour des européennes.
Oui, mais c'est incroyable. C'est normal. Fou,
la première recherche sur Google le lendemain de l'élection européenne.
Oh, bah, il y a plus de cons qu'on croit.
Alors, non.
Non, mais c'est dingue si tu veux.
Absolument pas.
Tu vois le
ou alors
le
c'est
sujet,
la complexité de tous les
non
c'est
de la diversité des... soit ils suivent pas soit c'est mal expliqué mais il y a quelque chose qui va pas.
C'est pas que c'est mal expliqué, il y a des gens, la politique c'est pas leur centre d'intérêt.
Tu as raison.
Je suis franchement désolé pour le plus grand nombre.
C'est ce qu'on a dit,
ils sont allés voter, c'est déjà bien,
c'est important d'aller voter, donc tu t'enseignes quand même avant quoi.
Et puis t'as des habitudes, c'est vrai que.
Attends,
après...
jusqu'à maintenant ils ont voté, bah, depuis 40 ans on a voté national, des conneries. Deuxième... Ça marche pas.
En fonction des
tu
pays,
l'as dit, Jean-Claude, il
ne
faut refaire.
Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vas-y, Michel.
Il faut reconstruire, tu l'as dit toi-même, une société.
Un projet surtout.
Voilà, c'est ça, un projet sociétal qui va construire un système économique, etc. Ben dis, toi et moi, on le verra pas. Hein. Alors tu dis.
Non, mais je suis d'accord, parce qu'il va falloir aider les citoyens à réfléchir d'une autre manière.
C'est pas aux citoyens.
Et agir d'une autre
C'est pas aux citoyens à réfléchir. Je suis franchement désolé. Il doit y avoir des alternatives.
Enfin, les citoyens, le sujet quand même, c'est à un moment, quand est-ce que les politiques répondent à leurs vraies questions. Si tu continues à faire comme avant et aujourd'hui tu changes rien à tes habitudes et que tu prends pas en considération tous les messages que les électeurs te font passer, parce qu'en fait, au bout d'un moment, si tu vois pas ce qu'ils expriment, c'est que t'es quand même complètement idiot. C'est-à-dire que si tu vois pas à travers le vote Front National ce que les gens essaient d'exprimer. Si tu vois pas à travers justement le vote écologiste, ce qu'ils essaient d'exprimer, si tu vois pas le fait qu'ils sont en train de se barrer des partis traditionnels de gouvernement et que là tu veux pas voir ce qu'ils t'expriment, c'est qu'à un moment,
si
t'es complètement idiot.
Donc,
si tu continues à faire pareil,
finalement, dans ce que tu dis, excuse-moi, Jean-Claude, dans ce que tu dis, c'est que Macron a tout compris depuis le début.
Bien sûr.
Et mais lui, il fait que jouer ça.
Il a fringué la droite et la gauche.
Quand
non,
tu
il n'a pas fait tout
mais
ça.
Enfin, quand tu fais
il a fait ça depuis
quand
deux
tu
ans.
Fais ton élection.
Et depuis deux ans, il a écouté mais... les gens.
Excuse-moi.
Ils ont mis un espoir. Ils ont dit, peut-être que ce
non, c'est pas vrai. Il a fait toutes ces élections européennes sur le vote contre Marine Le Pen.
Attends.
Mais c'est il a fait.
C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux.
C'est pas un enjeu national.
Il a une lourde responsabilité. Il a une lourde responsabilité, Emmanuel Macron, de faire monter le Front National. Il fait monter le Front National.
Oui,
je suis désolé.
Comme l'a fait Mitterrand.
Mais moi, je m'en fous, j'étais pas né.
Moi, ça fait partie.
Mais ce qu'il faut aussi, on l'a pas encore dit, c'est qu'il y a un Français sur deux qui n'est pas allé voter.
Bien sûr.
Mais alors, il y en a quand même 20%
qui
de
plus les... tour. Qui sont allés. Ceux qui ne vont pas voter et ceux qui votent, ils ne savent pas quoi au dernier moment avant de rentrer dans l'isoloir. C'est quand même assez inquiétant.
Ouais, mais il y en a 25% de plus que prévu.
Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on soit dans un pays libre, démocratique, où les gens votent. Il y a des pays où ils ne votent pas. On a des dictatures. Nous, on a la chance de voter. Donc moi, ça me met un peu les gants.
Mais on vote pour retourner à la dictature.
Jean-Claude a raison sur un truc. C'est formidable. Tu vas au Portugal en ce moment. Et tu constates qu'eux, ils sont sortis d'une dictature depuis très peu de temps. Et qu'ils ont une 76. Pleine conscience de ce que c'est que la démocratie. J'ai eu la chance de passer quelques jours là-bas, avant les élections européennes. C'était dingue, les débats, les machins. Il y a vraiment... c'est imprégné de politique. Les gens s'y intéressent fortement.
Qu'est-ce qui est sorti comme résultat là-bas?
Mais parce qu'ils ont encore... Bah, c'est la gauche qui a gagné.
Comme quoi ils réfléchissent.
Mais si tu veux...
Arrête de poser des questions, toi.
Mais pourquoi? Parce que là-bas ils savent encore ce que c'est que... vivre dans un moment où t'as pas le droit de voter, t'as pas le droit à la démocratie. Nous, on est devenus des bourgeois de la démocratie, c'est-à-dire qu'on considère que tout est acquis et qu'il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Il n'y a jamais rien d'acquis dans la démocratie. Et quand le Front National était à ce niveau-là, par exemple, ça n'est pas acquis. Excuse-moi,
monsieur Maslis. Je voulais faire écouter ce que disait Nicolas Hulot juste avant l'élection.
Je sais pas, j'ai lu quelque part, j'espère que c'est faux, mais qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui hésite à voter. Ça, non, mais ça, je voudrais quand même leur donner...
60% de taux d'abstention.
Combien ?
60%.
Ouais, 60%, oui. Moi, j'ai envie de vous dire quand même, franchement, si la démocratie vous pèse comme autant, essayez la dictature, vous allez voir, elle va vous écraser, quoi. J'ai quand même... Bravo ! Je suis d'accord avec vous. 200%.
C'est vrai,
il y a quand même des gens, et avant nous, y compris dans notre pays, qui sont morts pour la démocratie.
Absolument.
Voilà, donc ça c'est pour répondre aussi à tous les cons qui nous disent on n'est pas en démocratie en France et qu'on est sous la dictature de Macron. Donc les mots ont un sens. Hein. Ouais. Moi, je veux bien qu'ils ne soient pas contents que ce soit Macron qui soit au gouvernement, je suis tout à fait d'accord avec eux.
Mais parce que je te dis, on est des bourgeois de la démocratie.
Exactement, et je trouve que les mots ont un sens, et celui-là franchement, et j'étais content de Nicolas Hulot, je l'avais vu,
j'ai partagé sur Facebook,
il a raison,
voilà, tout à fait,
il a raison.
On ne peut plus logique,
on dirait pas mieux que ça.
Revenons chez nous.
Et où?
Revenons à la maison.
Gap.
Dans pas longtemps.
Non, car ça.
Dans pas plus tard que dans pas longtemps.
Ça donne des perspectives.
Dans pas plus tard que dans pas longtemps, il va y avoir une élection qui pourrait intéresser quelqu'un autour de cette table.
Voir plusieurs si tout le monde habite à Gap.
Intéressé en tant que candidat.
Mais ça doit intéresser tous les citoyens.
Absolument.
Non, mais intéressé en tant que candidat ici.
Il va y avoir 34 listes.
À moins que Jean-Claude Hérault.
Jean-Claude Hérault a lancé une nouvelle liste.
Alors, à moins 34 listes. Hein. Le retour du frère de la revanche, de Renard Argenté. Le retour du frère de la revanche de Renard Argenté.
Le Renard Argenté. Il
faut s'en méfier des renards.
Renard Argenté de la politique. Ouais. Toi, alors. Christophe Pirel, bien sûr, évidemment, tu es candidat, on le sait.
T'as remarqué ou pas?
Bah non, parce qu'on t'a pas vu là, ça fait un bout de temps, on se posait la question.
Ouais, c'est vrai, où il est passé?
Mais
Jean-Claude, la semaine dernière, on disait, mais Pirel, il se présente vraiment ici ou alors il est parti à Bordeaux?
Non, mais c'est vachement important. Non, pas du tout. C'est vachement important de laisser passer les échéances électorales. Moi, j'ai constaté que si tu veux, on était dans les européennes, le débat il devait se dérouler, il y avait une séquence démocratique qu'il faut laisser. Décanter,
voilà.
Et qu'il y a un moment où il ne faut pas venir mélanger tous les sujets, et donc on en a profité nous avec Ambition pour Gap là qu'on anime pour travailler sur le projet. Donc on s'est vu toutes les semaines pendant des réunions de plusieurs heures et on travaille sur le projet, et c'est indispensable parce que la question du projet elle est fondamentale. Moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que tu proposes aux gens. Et il y a une deuxième chose qui quand même m'importe profondément, et je voulais voir justement comment ça allait finir ces européennes pour bien comprendre ce que les citoyens attendent. Et j'ai une conviction maintenant, j'en suis à peu près à 200% convaincu, c'est que si on arrive avec un duel classique de personnes, entre eux, notamment Roger Didier et Christophe Pirel en l'occurrence, alors je parle de moi à la troisième personne, mais c'est pour illustrer.
Ah, ça te fait plaisir.
Et que ce n'est que...
On dirait Alain Delon.
Non, mais que ce n'est
qu'un... Non,
Hollande
aussi, par la troisième personne.
Non, mais et que ce n'est qu'une concurrence de deux personnes,
ouais.
Et pas de vision et pas de ouais. projet. Moi, je considérais que j'aurais perdu. Même si je gagne l'élection, j'aurais perdu. Donc, on est en train de chercher la meilleure façon de faire pour que les citoyens soient pleinement impliqués et qu'à un moment, ça ne soit pas Pirel Didier. Que derrière, il se passe quelque chose de plus grand. Moi, on y répondra prochainement. Je ne vais pas trop en dire non plus.
Oui, on a le temps. Hein. Mais non, c'était pour.
Mais on attend. Mais c'est indispensable de se dire, voilà, est-ce qu'on doit avoir un professionnel de la politique sortant, qui est l'héritier d'un maire sortant, etc. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui, j'ai conscience de l'image que je peux renvoyer parfois, c'est-à-dire de celui qui a fait aussi de la politique au niveau professionnel. Moi, ça a été mon métier. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Si c'est pour opposer deux professionnels de la politique sur des figures, c'est-à-dire le jeune contre le plus âgé, le machin, ça m'intéresse absolument pas.
De toute façon, ce donc sera moi, projet contre projet.
Moi, je veux qu'on ait.
C'est oui, mais comme ça que ça se passe.
Bah, ouais. Demande à Jean-Claude qui a été.
Jean-Claude, c'est pas comme ça que ça se passe.
Hélas, oui. À la fin, ça finit toujours sur. C'était des fois à l'époque Didier, ouais. Josso, Héro, Blanc. Mais en fait, on avait du mal à voir derrière ce qu'il y avait dans le programme.
Si, et je veux pas finir
là-dessus. Si tu veux, il y a une attente forte, il y a une attente très forte des citoyens et des choses qui se sont passées ces derniers mois dans la démocratie, dans l'opinion, parmi les citoyens, qu'on peut pas ignorer. Si on fait comme si de rien n'était, ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai demandé à l'équipe avec laquelle je travaille de considérer qu'on pouvait pas faire comme si de rien n'était. C'est indispensable.
Si tu peux me le permettre, il y a effectivement le projet, l'équipe, la tête de liste qui compte, mais il y a aussi la façon dont on fait de la politique. Dès qu'on est élu maire, il y a deux solutions. On fait comme le maire actuel et on prend toutes les décisions tout seul ou quasiment tout seul sans en référer aux citoyens, ou alors sans arrêt pendant la durée du mandat, on associe les citoyens.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Et c'est pour ça que les gens ne vont plus voter.
Bien sûr.
C'est qu'on ne les intéresse pas à la politique.
Il a raison.
C'est extérieur à eux. Les politiques, c'est les professionnels qui ont fait, c'est pas moi. C'est ça qu'ils disent.
Non, mais si c'est que des experts qui se mettent dans un bureau et qui décident entre eux,
mais
ça c'est hors de question, il faut en finir avec ça. Si c'est l'idée de se dire...
C'est fini.
Non, mais si la seule chose qui compte quand tu es au pouvoir, c'est de savoir comment tu vas te faire réélire 6 ans après quand tu es municipal. Non, mais si, parce que je suis désolé. Mais si, parce que quand t'as à un moment ton seul projet, c'est de garder de l'argent pendant 5 ans et de faire des trottoirs pendant 1 an, je suis désolé, t'as quand même complètement ignoré ce que c'est que le sens de l'engagement politique.
C'est
quoi le projet de la ville. Voilà. Donc, si on n'a pas discuté de ça avant, on pourra pas le faire après.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Déjà,
mais t'as le droit de pas être d'accord.
Arrête d'être obnubilé par cette histoire de trottoir, de parking, de.
Mais comment ça, je suis obnubilé par le trottoir?
Mais non. Mais c'est pas moi qui en fais des trottoirs.
Les gens qui habitent. Il y a des travaux dans tous les coins aujourd'hui.
Les gens.
Il y en a un an et demi des élections.
Ça devenait indispensable. C'est fait. On n'a plus rien à dire.
Les gens qui habitent Gap sont contents de pouvoir marcher sur des trottoirs.
Et ça leur a donné un emploi. Et ça leur a permis. Ça leur a permis de circuler. Ça leur a permis de circuler correctement dans la ville.
Mais non.
Et ça a donné des écoles de qualité. Ça a permis des services publics de qualité. Est-ce que ça a empêché justement de faire des conneries environnementales comme justement le plan d'eau? Non, je suis navré. Il y a un moment aussi où tu vois. Et oui, bien sûr, les gens donner du pain et des jeux, si tu veux. Il y a une forme de facilité dans la vie politique qu'on ne peut plus accepter.
Je ne veux pas être.
Là, t'as raison. Le pain et les jeux.
Je ne veux pas ici.
Non mais si c'est pour faire des trottoirs et un concert à la patinoire des années 80 qui va coûter un paquet de pognon à tous les contribuables, c'est-à-dire que c'est tous les contribuables qui vont payer pour 3000 personnes qui vont. Mais si plein de choses justement. Mais moi je préfère
concert, si
tu veux qu'on fasse de la culture dans les écoles que de payer des vieux artistes des années 80, Lio, etc. avec l'argent public. J'en suis navré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Moi j'ai des convictions, j'ai des idées. Contente de pouvoir avoir.
Mais tant mieux.
Lio qui va venir chanter sa chanson.
Mais c'est très bien que il y a des gens qui puissent.
Mais faut que tout le monde puisse en profiter.
Dans ces cas-là, les personnes qui sont les producteurs de Lio, etc. ils prennent leurs risques. puisque c'est une activité privée et commerciale, de louer une salle et de prendre une billetterie et de faire payer les gens. Et c'est uniquement les gens qui ont envie d'aller voir qui vont payer. Je ne vois pas pourquoi l'ensemble des citoyens doivent payer pour aller voir l'IO. Je suis navré, c'est pas mon choix. Par contre, je considère que l'argent public doit aller là où ça doit être, c'est-à-dire sur tout ce qui est du service public, les écoles, l'éducation, les choses prioritaires, la façon dont on circule dans la ville et donner de l'emploi aux gens. Je suis navré, c'est peut-être basique, mais enfin, ça suffit.
Sur ce point-là, je suis d'accord avec Christophe. Je voudrais quand même lui faire quelques reproches.
Oui, merci. C'est mon anniversaire, Jean-Claude.
C'est pour ça, Jean-Claude, j'en profite, tu sais.
Je te laisse la parole, je voulais seulement faire une parenthèse. Je ne veux pas être là en défenseur de Roger Didier, qui ne veut pas venir à cette émission, et c'est dommage, parce que franchement, j'aimerais bien qu'il vienne, mais il ne veut pas. C'est comme ça, il ne veut pas. Bon, et toujours est-il que je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis sur la ville de Gap.
C'est ça, la démocratie.
Voilà. Parce que je suis gapensé, donc je vis à Gap, il y a des choses qui me plaisent bien. Il y a des choses qui me plaisent moins, il y a des choses qui me plaisent bien.
Moi aussi, il y a des choses qui me plaisent bien. Vas-y, ce week-end, je vais être au festival Tous Dehors.
Et le concert, ça me fait super plaisir, moi.
Il va y avoir une festivité aussi.
Et puis le plan d'eau, ça fera plaisir aussi.
Il y a festivité aussi.
Le plan d'eau, ça va me faire plaisir aussi. Mais ça, on en parlera. Alors, hop, tu te tais, ça, Jean-Claude.
Non, simplement, le reproche que je voulais faire à Christophe,
vas-y,
et un peu à son équipe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de véritable opposition au conseil municipal de Gap. Ça, c'est un vrai problème. Quand on veut se faire élire, enfin, moi, je ne sais pas, peut-être que je fais de la politique à l'ancienne, c'est bien d'aller dans les conseils municipaux, il y a la presse, tout ça, c'est très bien. Mais moi qui ai siégé pendant 8 ans au conseil municipal de Gap, je n'ai jamais loupé une commission. Et c'est dans les commissions qu'on travaille le plus et qu'on est au courant des dossiers. Ce que je reproche à l'opposition, d'abord, il y a eu, tu sais, mon groupe qui a éclaté. Ça, pour moi, ça a été vraiment très compliqué à le surmonter personnellement parce que ce n'est pas comme ça que je vois la politique. Et en plus, quand je vois que l'opposition, elle est plus présente ou très peu présente dans les commissions, elle n'est pas présente dans les cérémonies officielles. Je veux dire, ce n'est pas bon, quoi. Nos concitoyens ont besoin de voir les acteurs de l'opposition faire leur travail d'opposition.
Tu sais pourquoi on va
plus... Qu'est-ce qui s'est passé avec ton équipe? Parce que tu me dis qu'elle a explosé.
Ben parce que quand j'ai laissé la main, c'était décidé le soir des élections du deuxième tour, quand on a été élu. Moi, j'ai annoncé que je partais dans 2 ans parce que j'avais d'autres responsabilités à prendre. Donc, j'ai laissé ma place et ma collègue qui me suivait a laissé sa place. Il y a deux nouveaux conseillers municipaux.
C'était de se retirer à l'île dorée.
Qui sont arrivés, deux nouveaux conseillers, qui ne se sont pas entendus. Pour des raisons que je ne vais pas forcément déballer ici, je constate les faits. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu ce travail auquel j'étais très attaché et auquel on a fait pendant 8 ans ce travail qui n'a pas réellement été fait. C'est vraiment dommage.
Ils ont intégré un groupe ou ils ne travaillent plus ?
Non, mais la question des commissions, Jean-Claude,
voilà, ils sont là,
je vais te répondre avec honnêteté sur la question. On a posé le sujet plusieurs fois en conseil municipal. On a posé le sujet plusieurs fois auprès de Roger Didier. La commission des finances, à laquelle j'appartiens, qui se réunit donc une semaine avant le conseil municipal. Ouais. On n'a aucun document. Aucun. En préalable. On n'a plus aucun document. Peut-être qu'à ton époque, ça devait être différent.
C'est sûr que ce n'est pas dématérialisé.
Nous n'avons plus aucun document. Quand on arrive en commission, ils nous déroulent un PowerPoint avec des tableaux pleins de chiffres qu'on devrait assimiler en à peu près 5 secondes, puisque c'est comme ça qu'ils les déroulent. Ils nous déroulent les tableaux pour le vote du budget. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai dit au maire que nous n'irions plus en commission, puisque nous n'avons pas les documents préalablement. C'est-à-dire que si tu ne peux pas travailler document et les dossiers avant, c'est inacceptable. Donc je ne peux plus aujourd'hui aller en commission des finances dans ces conditions. La même chose pour la commission des travaux. La commission des travaux, on reçoit strictement aucun document en amont. On arrive et ils nous déroulent les joueurs.
Moi, je les avais, moi, les documents.
Mais sauf que c'est fini. Depuis que je suis arrivé au conseil municipal, il n'y a plus aucun document distribué en amont des commissions. Nous ne pouvons même pas travailler, et pourtant sur des sujets importants comme le budget, en amont de la commission, parce qu'évidemment, sinon, on irait en commission et on bosserait sur le projet. Et donc, j'ai exprimé le fait une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, je ne vais plus en commission.
Ça serait bien que Roger
cautionne plus.
Et moi, je ne cautionnerai pas
le fait de traiter comme ça, justement, l'opposition, en ne leur donnant même pas les clés pour pouvoir travailler.
L'opposition, il faut qu'elle puisse travailler.
Exactement.
Parce que dans une démocratie, il y a une majorité, il y a une opposition.
Donc, je suis content que tu me poses la question. Je peux te le dire, mais c'était déjà, effectivement, ça a été exprimé plusieurs fois au conseil municipal et notamment aussi repris dans le Dauphiné. C'est une histoire qui date notamment du premier budget dans auquel j'étais, moi en tant que conseiller municipal, et ça a été un espèce d'énorme fiasco de la part de Roger Didier, puisqu'on s'est évidemment un peu pris la tête. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas travailler sur un PowerPoint en direct diffusé où on te le déroule à la vitesse grand V parce que si pas voilà bon. Mais t'as bien fait de poser la question parce que pour le coup ça m'a permis de le dire ouvertement, voilà.
Très bien.
Alors, on va terminer avec Claude Guéant qui a perdu sa session de
merde.
Oh, j'ai cru que c'était une enveloppe qu'il avait perdue.
Le pauvre.
Bah, il avait un chèque, il a rendu le chèque aussi.
Il a perdu sa session de à vendre, dis donc. Alors, vous savez qu'il avait obtenu ses deux décorations pour ses états de service dans la préfectorale. Donc, en 2001, il avait été fait commandeur de l'Ordre national du mérite comme préfet de la région Bretagne. Et neuf mois avant, il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur comme préfet des Hautes-Alpes.
Ah oh là là.
Voilà. Oui. Et donc,
il a mouillé le maillot, lui. Hein.
Là-dessus, on se raconte des histoires. Hein.
Bah ouais.
Parce que quand même, globalement... Non, mais ce que je veux dire, c'est que Claude Guéant a sans doute fait plein de choses.
Ah oui.
Mais enfin, pour qui?
Ah ben, voilà. Je sais pas.
Et donc l'ancien président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, lui, il est invité sur toutes les cérémonies à côté d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de problème.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un à qui on enlève la Légion d'honneur, et l'autre, on l'invite partout à côté de Nicolas Sarkozy, à côté d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, il est invité dans les salons, dans les machins, dans les trucs.
Absolument.
Enfin, je veux dire, si il a détourné de l'argent, enfin, je ne sais pas exactement tous les tenants et aboutissants du dossier, enfin, il ne l'a peut-être pas fait à titre personnel. Donc, s'il ne l'a pas fait à titre personnel, il y a toujours un responsable derrière.
Sarkozy, il est mis en examen, donc il va être jugé.
Ah, bien sûr, t'as raison. Et effectivement, les images qu'on nous renvoie toujours des deux, là, l'un à côté de l'autre, en mode meilleur ami, c'est quand même un petit peu inquiétant.
Ouais. Bah oui.
Ah, voilà. Jean Couette nous salue.
Ouais. Voilà. Tout à fait.
La Légion d'honneur, Jean. Ouais.
Non, c'est pas ça la question. Non, c'est les copains. Alors, donc, le procès Balkany aussi. Le procès Balkany, la grosse blague.
On a tous des Balkany dans nos déjeuners.
On devrait pas être son avocat.
Ça, c'est impressionnant, ça. Hein. Le pauvre avocat.
Oh là là, le pauvre. Et alors, il sortait là de son procès et il a croisé un journaliste qui lui a demandé « Dites donc, pour les Européennes, là, ils en pensaient, écoutez. »
Monsieur Balkany, vous avez suivi les élections européennes. Vous pensez quoi de la tôle des Républicains?
Merde.
Oh, la question.
La tôle fait jamais plaisir.
Et il a carrément enlevé la tôle.
Ça, c'est fait.
Attends, c'était un journaliste de quotidien ou un truc dans le genre.
Ça devait. Ça devait.
Parce que quand même, pour placer le mot tôle dans la question,
je crois que c'est Edwige Plenel.
C'est rigolo. Non, mais ça fait
plaisir. C'est pour faire plaisir à Thierry.
Edwige Plenel.
Edwige? Non, Edwige, il n'aurait pas dit ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est le cabache, les interviews et le cabache. Là, pareil, avant.
De quelle couleur est le mur?
Ouais, voilà.
Tu te souviens,
ça?
Ah, c'était
magnifique.
Alors, attends, de quelle couleur est le mur?
Écoute. Je l'ai.
Tu l'as, celui-là?
Ouais, c'est.
Il est formidable.
C'était.
Thierry Breyer? Non, c'était pas Thierry.
Non, c'était non. La couleur du mur.
Ah, c'était un ancien ministre.
André Valigny.
Ah, c'était André Valigny.
André Valigny, écoutez.
Ah, celui de l'Isère.
Ouais.
Écoutez.
C'est énorme.
Quelle couleur vous préférez pour le mur?
Pour le mur, quel mur?
Comment, quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser.
Non, elle est géniale, celle-là.
Je crois que
c'est sa meilleure question de l'histoire.
Il est furieux, lui.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Et comme il a dit
la
prépa...
C'est le cabache.
Ouais, c'est le cabache. Et c'est pas une imitation ou machin, c'est pas Canteloup. Hein.
C'est magnifique. Il reçoit...
Il a dû la préparer, mais alors pendant toute une nuit, celle-là, tu vois.
Il reçoit, à l'époque, André Valigny pour la réforme, effectivement... Donc, qu'il a dit.
Ça déconne.
La réforme territoriale.
Génial, hein. Territoriale.
Qui a posé des problèmes.
Quelques-uns, ouais.
Et donc, tu imagines, il est 8h30, c'est le matin. Donc,
t'es pas réveillé, t'as pas pris de café.
Et ça, t'as le cabache qui te dit.
Quelle couleur vous préférez pour le mur?
Pour le mur, quel mur?
Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser.
Et qu'est-ce qu'il répond, Valigny?
Mais je crois qu'il est déboussolé complet.
Je me suis arrêté là, tu vois, imagine. Et donc, Nicolas Dupont-Aignan a eu la bonne idée d'aller chez le cabache.
Avant.
Et donc, il lui a... Pareil.
Pour les prochaines européennes, vous avez dit « Je menace François-Xavier Bellamy à l'air. Je suis en concurrence avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. » Quand vous dites ça, vous plaisantez? Vous êtes loin d'eux.
Mais... Qu'est-ce que vous en savez encore? Je souffre de voir la vie politique réduite à un jeu assez pitoyable, il faut le dire.
Auquel vous participez.
Pourquoi
il vous admire vraiment?
Pourquoi?
Parce que vous allez de défaite en défaite et que les échecs ne vous effraient pas. Merci d'être venu, à bientôt et on verra les résultats
de dimanche. On verra dimanche.
Il est énorme.
Et alors dimanche,
il a peur de rien, lui.
Il est en roue libre, hein, quand même. Hein,
comme, il fait, comme il a fait du Poignard.
Il a fait 3,5, non
3,5. Ouais, il a fait autant que Benoît Hamon, je crois.
Ouais. Oh, quand même, ouais, ouais. Pareil.
Et Asselineau. Et on termine avec Asselineau.
Ah oui.
Tu veux dire le Parti
Il a fait combien d'ailleurs, Asselineau? Excusez-moi.
Il va le dire.
Combien?
Il va le dire.
Écoutez.
Un autre homme politique a disparu depuis 48 heures. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. La dernière fois qu'il a été vu, il était très sérieux.
Nous sommes à la seule liste qui fait vraiment peur à Macron.
Ouais, il a fait 1,17%. Si et seulement si vous l'apercevez, surtout n'agissez pas. Bah pareil, n'agissez même pas du tout. Et on nous dit que le dispositif est efficace. J'apprends que nous avons des nouvelles de François Asselineau. Il s'est exprimé sur son site.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Au moment même où je parle, on est à peu près à 1,2%. Nous ne sommes pas, hélas, parmi les premiers partis politiques de France.
Alors, au moment où je vous parle, effectivement, hélas, là, on a beau tourner les chiffres dans tous les sens.
Hein, bah oui.
1,2, c'est 1,2. Ah, mais oui. Il respire un bon coup, et c'est fièrement qu'il annonce.
Si vous regardez bien, l'UPR a quand même progressé.
Ah. Écoutez bien la fake news qui arrive.
À la présidentielle, j'avais fait plus exactement 0,92% des suffrages. Et cette fois-ci, nous faisons 1,2.
Un gamin de CM2 comprendrait la supercherie.
On est passé de 0,9 à 1,2, ce qui représente une augmentation de 33% ben oui. En termes de pourcentage.
En termes de pourcentage, dit-il, car en termes de nombre de voix, il sait très bien que c'est faux. 332 588 personnes ont voté pour lui il y a 2 ans, contre 266 000, en plus arrondi, qui ont voté pour lui dimanche. Et à vue d'œil, on n'est pas sur une augmentation de 33%.
Ça, c'est très bon. Ah, ouais, j'avais trouvé ça excellent.
Il y avait moins de voteurs en Europe européenne.
Eh oui, donc automatiquement, si tu balances en pourcentage, comme quoi les sondages, non, tu peux toujours t'en sortir.
Ouais. Les mecs, ils doutent de rien.
Tu vois, il y a un sujet sur les européennes, c'est qu'il n'y a pas une uniformisation des règles au niveau des pays. Et tu as des pays où, oui, quand tu fais moins de 5%, tu as quand même des députés européens. Et en France, il faut faire 5%, ouais, pour avoir des députés, ouais, européens.
C'est pas très joli.
Mais c'est bizarre. Hein.
Mais
c'est,
tu vois, comme quoi.
C'est la faute à Macron.
Non, mais tu vois, si,
et, tout le monde l'a dit, c'est Macron.
Bah, les listes nationales, finalement, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir.
Le truc, je trouve que c'est une bonne idée.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça se coupe région par région. Mais là, c'est vrai qu'on ait les mêmes règles partout, quoi.
Parce que. Mais ce que tu es en train de dire, là, c'est l'Europe.
Tu connais le meilleur taux de participation en Europe?
Non.
Le meilleur taux de participation? 82%, je crois. Où ça? En Belgique.
Oui, parce, ah, que, ouais,
parce que le vote est obligatoire. Donc, si tu veux,
il y a 18% d'ici là.
On a quand même. Alors, c'est toujours le sujet. Pauvre. C'est quand même vraiment le sujet de l'Europe. C'est la question de savoir si à un moment on travaille avec tous les mêmes règles. Ouais. Tu vois, rien que sur le vote,
mais non, on fonctionne pas avec pareil. Les mêmes.
Donc, alors, autant te dire que sur les questions importantes comme la fiscalité, comme la justice, comme les salaires, etc.
Là, on pointe le problème.
Bah oui. Mais ça commence par l'élection, en fait. C'est déjà un problème. Au début.
Et il y en a qui votent avant nous.
Oui.
Qui ont voté 48 heures avant.
Oui, qui ne sont pas dans les mêmes échéances. Bon, je pense qu'il y a un moment, il faudrait quand même régler tout ça. Hein.
Ça va être compliqué. Ah oui, ça va être compliqué parce que là, on parle uniquement sur une histoire de pourcentage pour les élections. Mais ça va de A à Z. Hein. On peut faire un abécédaire.
La prochaine émission, on va parler du président, de l'élection du président de la Commission.
Ah oui, important ça.
Du président de l'Assemblée.
Ce sera dans 15 jours parce que la semaine prochaine, je vous abandonne et je prends mon studio. Et je monte à Briançon avec mon équipe de
Briançonnais.
Et oui, délocalise une fois par mois, vous le savez.
C'est très bien.
Donc nous serons du côté de Briançon.
Sur ces bonnes paroles. Détaché aussi,
je vous souhaite une belle journée. Un bon dimanche, profitez bien.
Bon dimanche.
Et rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Christophe Cyrel.
Merci.
Et merci à vous tous. Ciao, ciao.